jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, à l'écoute de cette nouvelle semaine de rediffusion estivale pour partager une expérience de recherche hors norme. 40 jours sous terre et hors du temps pour tester les capacités humaines d'adaptation aux conditions les plus extrêmes. Notre invité, l'explorateur chercheur Christian Clotte, s'est enfermé avec 15 volontaires dans une grotte de l'Ariège pendant 40 jours, sans calendrier, sans montre, sans aucune notion du temps. Isolés à plusieurs dans cet immense dédale cavernicole. Comment se sont-ils ou pas synchronisés et repérés? Comment ont-ils réagi physiquement, cérébralement, psychiquement à cette expérience aux limites? C'est ce que nous avions découvert ensemble le 23 novembre dernier avec Christian Clotte lui-même qui venait tout juste de remonter de sa grotte et d'en faire le récit dans Deep Time, 40 jours sous terre aux éditions Robert Laffont, prêt pour partager l'aventure aux limites de l'adaptation humaine autour de la question pourquoi et comment passer 40 jours sous terre et hors du temps. Bienvenue dans la pénombre de la grotte de Lombrive en Ariège, un matin ou un soir, à moins que ce ne soit un midi.
Messieurs, dames, bonsoir, bonjour, bon matin, good morning, je ne sais pas moi-même. Je suis actuellement dans l'espace de vie avec Benjamin et Florent.
Bef, bef.
Pour l'instant, on n'est que tous les trois, en attendant que Christian aille nous chercher en fait des tapis de sol pour éviter de dormir à même la roche. On va se faire une petite partie de votre jeu préféré dans cette vidéo, à savoir, savez-vous quelle heure est le challenge? Le tout premier point heure qu'on a fait, on a dit qu'il était style
midi ou 13h.
On pense qu'on a mangé, on est d'accord pour dire qu'on a mangé vers
15-16h, je pense.
Vers 15h.
J'aurai le respect d'un soir.
Entre 14h et 16h, on a mangé.
On va dire ça.
Ensuite, on est parti explorer la grotte. Et ça, j'ai aucune idée de combien ça a duré. Peut-être 3h, 2h, 2h, 2h et demie. Donc, d'après nos calculs, il est 17h là, c'est ça que vous me dites. C'est marrant parce que personne n'y croit. Et on a très faim du soir. Hein. Alors que d'après nos calculs, on a mangé il y a 16 minutes. Et du coup, d'un point de vue ressenti, je dirais qu'il est 19h47. Vous dites?
Moi, je dis juste
20h30. Dur. Donc ça voudrait dire que d'ici 3h, il faudrait qu'on se dise, bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Ça me ferait mourir de rire si on se couchait à 21h. Let's go!
Extrait vidéo hors du temps, mais non sans humour, tourné sous terre, dans cette grotte de l'Ariège, où vous avez passé 40 jours et 40 nuits, même si vous n'en faisiez plus tellement la différence entre les deux. Bonjour Christian Clotte.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager cette aventure scientifique et humaine absolument inédite, hors du temps, menée dans le cadre de l'Institut de l'adaptation humaine, un organisme de recherche que vous avez créé pour tester justement nos limites pour les besoins de la science. Vous avez donc cette fois-ci entraîné 15 volontaires, hommes et femmes, dans cette expérience inédite. Christian Clotte, pourquoi avoir choisi, c'est presque biblique, hein, de passer 40 jours et 40 nuits enfermés ensemble à plusieurs sous terre?
Oui, alors c'est pas tout à fait faux, hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux choses dont on est assez sûr, c'est qu'il y a pas mal d'études qui montrent que 35 jours est le temps d'un passage d'un état à un autre. Ça a été fait dans les stations spatiales, ça a été fait dans différents cadres, et la science est assez d'accord là-dessus aujourd'hui. Et quand on prend les grands textes fondateurs de l'humanité, la Bible, vous l'avez cité juste avant, mais le Coran aussi, avec Mahomet 40 jours dans la grotte, quand on prend le Bhagavad Gita, avec Bouddha qui lutte 40 jours contre le mal, quand on prend les Zoroastriens qui luttent 40 jours contre les pluies, on constate que cette notion de 40 jours, elle existait dans tous les grands textes fondateurs. Et je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien que nos ancêtres avaient déjà identifié cette période de 35-40 jours comme le passage d'un état à un autre. Donc quand il a fallu choisir un timing, et ben naturellement j'ai voulu reprendre ces 40 jours puisqu'il semblait qu'ils étaient évidents pour ce passage.
Ouais, c'est un cycle, hein. C'est probablement un cycle. Alors pour qu'on comprenne bien, vous étiez enfermé, donc Christian Clotte, dans cette caverne, dans cette grotte, avec 15 volontaires, hein, sans montre, sans calendrier,
sans accès au soleil.
Sans accès au soleil, hein. Il y a bien sur la photo de couverture du livre, on voit un soleil électrique, mais on verra qu'il n'a pas marché tout le temps. Pour tester quoi? Notre horloge biologique, mais à plusieurs, parce que Michel Siffre, on s'en souvient, c'est le premier spéléologue, hein, qui est parti tester cette notion du temps, d'horloge biologique qui se modifie, mais il était tout seul. C'était la première fois qu'il y avait une expédition scientifique de 40 jours et 40 nuits à plusieurs.
Oui, alors effectivement, les missions Cifre qui ont été les précurseurs. Alors Cifre lui-même en 62, puis ensuite pendant une vingtaine d'années, il va faire rentrer plein de monde, des femmes, des hommes, dans des grottes pour les tester sur la capacité de générer une image du temps lorsqu'on est hors du temps. Malheureusement, et à la fois c'était nécessaire de le faire sans doute ainsi, ils sont toujours seuls. Or, nous sommes quand même des animaux sociaux, en effet, pour vivre en groupe, et l'avenir de notre planète ne va pas être pour un individu seul. Donc il fallait aller plus loin. Il y a eu 2-3 expériences en groupe. Il y a eu 7 femmes qui se sont enfermées dans la grotte de La Cave dans les années 60. Il y a eu des personnes au Costa Rica, d'autres à Cuba. Bref, mais jamais pour vraiment faire des études poussées. Donc j'ai voulu, cette fois, suite à la Covid, qui nous a quand même remis en question sur la notion du temps, sur comment est-ce qu'on gère notre espace-temps quand on est tout d'un coup dans un nouveau mode de vie. J'ai voulu monter cette expérience, mais cette fois, en groupe. Et effectivement, à notre connaissance, mais attention, la science est complexe, à notre connaissance, c'est la première fois que ça se fait en groupe pour mener ce genre d'études.
Et qu'est-ce que vous voulez tester prioritairement? Notre capacité de nous adapter finalement dans n'importe quelle condition, de voir comment on réagit. Il faut dire que dans cette grotte, la température est en général constante, autour de 10 degrés, mais avec 100% d'humidité. Il y a juste la lumière frontale que vous amenez, que vous générez vous-même. Vous avez dit de vous enfermer, donc sans possibilité de sortir, d'avoir aucun repère temporel ni spatio-temporel. Qu'est-ce que vous cherchez?
Alors il y a deux choses. Il y a la grande image, cette notion de comment l'humain s'adapte à une nouvelle condition de vie. Demain, peut-être que vous, moi, n'importe qui peut se retrouver soudainement plongé dans un nouvel contexte de vie. On peut imaginer la vallée de la Vésubie ou de la Roya qui tout d'un coup se fait inonder et des personnes qui vivaient jusque-là plutôt agréablement avec des maisons et tout ça, du jour au lendemain, perdent leur système de vie. Alors là, on va les aider parce que, heureusement, le système se met en place. Mais imaginons que pendant des semaines, on ne puisse pas aller aider ces personnes. Comment elles vont vivre? Comment elles vont s'adapter? Comment elles vont fonctionner? Quels sont les mécanismes cognitifs qui vont se mettre en jeu pour réussir ce défi?
Pas seulement physiologiquement, mais psychiquement, voilà, psychologiquement.
Psychologiquement, est-ce qu'il y a des modifications dans le cerveau? Est-ce qu'il y a des systèmes qui vont se mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des fonctions qu'on connaît mal qui vont tout d'un coup se développer? C'est ça qui m'intéresse. Et pour ça, on mène plein d'expériences différentes. On va aller regarder de manière un peu plus spécifique des choses. Alors, dans Deep Time, évidemment, cette spécificité, c'est 2 choses. Tout d'abord, des humains plongés dans un nouveau contexte de vie, parce qu'aucune des personnes n'avait déjà vécu dans une grotte.
C'est quand même pas tous les jours qu'on le fait. C'est pas des spéléologues en plus.
C'est pas des spéléos, c'est pas des spécialistes. Pour la plupart, ils n'avaient jamais vu une grotte de leur vie. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment, c'est hors du temps. On est défini par 3 choses. Notre capacité à générer de la nourriture, de l'eau et de la respiration, la gravité et le temps. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève une de ces 3 notions fondamentales? C'est ce qu'on a essayé de comprendre avec Deep Time.
Peut-on se libérer du temps? C'est vraiment une des questions les plus énormes que vous avez soulevées dans cette expérience Deep Time, comme vous le racontez dans cet ouvrage, Christian Clore, où vous citez d'ailleurs l'un des philosophes et physiciens qui a le plus travaillé sur cette question du temps, c'est Étienne Klein, qui nous donnait ici même une des définitions possibles du temps. On l'écoute.
Et le temps, c'est 7 choses dans l'univers dans laquelle nous ne pouvons pas voyager. Nous ne pouvons pas choisir librement notre position dans le temps. Moi, je dirais que c'est une sorte de prison à roulettes. Nous sommes emprisonnés dans le temps. Il avance. On ne sait pas ce qui fait qu'il avance. Nous ignorons quel est le moteur du temps. N'empêche que cette expérience radicale s'impose à nous.
S'affranchir du temps, de cette prison à roulettes, vous citez d'ailleurs le physicien philosophe Étienne Klein dans votre ouvrage, Christian Clore. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez réussi à vous affranchir du temps, de cette prison à roulettes dans votre grotte à 15, enfin à 16 avec vous?
Alors non, 15 avec moi.
15 avec vous, pardon.
On était 15 en tout, 7 femmes et 8 hommes. Alors effectivement, est-ce qu'on s'affranchit du temps? C'est en fait une vue de l'esprit, parce que le temps, comme le dit très bien Étienne Klein, qu'on ne peut pas effectivement oublier quand on parle du temps, le temps, lui, il continue. Il ne s'arrête pas. Je n'ai pas arrêté l'univers. Pendant que moi, j'étais hors du temps dans ma grotte, d'autres personnes en surface continuaient de voir le soleil passer et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau croire qu'on rompt avec le temps lui ne s'arrête pas. Ce qu'on peut changer, c'est la perception qu'on a du temps, la manière dont on périmètre le temps et plus encore la manière de l'imposition qu'on nous fait du temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps est devenu une imposition dans nos sociétés. Ce n'est pas seulement le soleil qui détermine s'il est le jour ou la nuit. C'est, et ça a été dans les années 1200, l'arrivée des cloches dans les églises qui déterminait le moment où on allait à la prière. Et donc, le moment où on allait au champ. Puis, petit à petit, on a périmétré le temps. Incroyable de savoir que la minute elle-même est assez récente dans notre histoire. C'est seulement dans les années 1800 qu'on commence à se dire « mais tiens, c'est plus suffisant ». De déterminer l'heure, il faut la minute, puis ensuite la seconde. Et maintenant, c'est 9 milliards d'oscillations de l'atome de césium.
Avec les horloges atomiques, oui.
C'est complètement fou. Je veux dire, on en est arrivé à ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle spécification du temps? Et quelque part, quand on s'affranchit de ça, on s'affranchit surtout de l'injonction obligatoire que l'humain a fait du temps. Et non pas du temps au sens large du terme.
C'est-à-dire que vous avez invité donc les 14 autres participants et vous-même à dire que voilà, vous n'aurez pas de montre, vous ne saurez pas quel jour il est, puisque jour et demi dans une grotte, on ne s'en rend pas compte. Et vous allez laisser chacun finalement dormir le temps qu'il le souhaite, se réveiller quand il le veut, manger quand il le veut. Donc au fond, vous avez proposé à chacun de suivre quoi son propre rythme personnel.
C'est ne pas se donner une obligation, ne pas se dire je vais me coucher à telle heure parce que c'est quelle heure et je me lève à telle heure parce que c'est telle heure. Ne pas avoir le droit de réveiller quiconque. Donc chacun devait rester à son rythme. Si je me sens fatigué, je vais me coucher, je dors. Quand je me réveille, je ne dois plus chercher ma montre pour savoir si il est l'heure de me lever. Je dois essayer de ressentir, est-ce que mon corps me dit « oui, c'est bon, tu as assez dormi, Christian, tu peux te lever ».
Est-ce que c'est bizarre ça?
Ah oui, c'est bizarre au début. Faut être honnête, c'est bizarre. Parce qu'on a tous ce réflexe, je crois. Quand on se réveille, on regarde la montre. Il est 2h du matin, oh là, non, allez, je me recouche un moment. Il est 7h du matin, allez, c'est bon, je peux me lever. Alors que là, on n'a plus ça. Et au début, c'est perturbant. La première nuit où je me réveille, je vais parler pour moi parce que je ne vais pas mettre dans mes collègues.
Donc dans votre sac de couchage, dans la grotte.
Dans mon sac de couchage, dans ma tente, dans ma grotte, dans mon petit espace à moi.
Vous étiez dans quel endroit dans la grotte?
Alors on était dans la grotte de Lombrie en Ariège et on était dans ce qu'on appelle la galerie du Lion, qui a à peu près à 1,5 km de l'entrée de la grotte, une belle longue galerie de plusieurs d'environ 250 mètres où on avait chacun une tente. On était plutôt bien là.
Alors dans votre tente, la première nuit, vous vous réveillez.
Alors déjà, faut imaginer une chose, pas un luxe de lumière, rien. La noire totale, ça c'est déjà très rare sur Terre.
Pas noire évident totale. Non plus.
Et puis on ouvre les yeux et on cherche cet indicateur lumineux, il n'y en a pas. Pas de montre. Voilà. Et là je dois refaire un chemin certainement que nos ancêtres faisaient très naturellement. C'est, alors attends, écoute-toi, est-ce que ton cœur, est-ce que ton rythme cardiaque, est-ce que ta température centrale, est-ce que ton rythme sanguin, est-ce que ces petits signaux très faibles qu'on n'écoute plus me disent, ok Christian, tu es assez reposé, tu peux te lever. Ou au contraire, non. Reste encore un peu couché, tu vas te rendormir dans quelques minutes, tout ira bien et tu repars pour un cycle d'une heure et demie à peu près et ce sera parfait. Donc cette écoute-là, cette écoute fine, au début, elle est perturbante parce qu'on a perdu l'habitude de le faire. Mais quand on la retrouve, elle devient extrêmement naturelle.
On écoute, on s'écoute. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Il y a du bruit dans une grotte quand on se réveille? Vous dites le noir total et quoi? De bruit d'eau?
Oui, il y a toujours du bruit dans une grotte. C'est un univers minéral et fait de roches et d'eau. Donc il y a toujours de l'eau qui coule quelque part. D'où d'ailleurs ces splendides stalactites, stalagmites qu'on voit. Et d'ailleurs Lombrive, on est très riche. Donc on a cette eau crée le décor et forcément génère le bruit. Donc on n'est pas dans un monde silencieux. On est dans un monde qui résonne au contraire, où chaque petit bruit peut parcourir la grotte. Ça c'est terrifiant d'ailleurs. Parce que on avait des hallucinations auditives parfois dans la grotte. Ça arrive assez régulièrement aux spéléologues, mais on ne sait pas si ces hallucinations auditives sont vraiment le fait de notre cerveau qui nous dit ouh, t'as un petit problème, mon gars, ou si c'est un bruit qui s'est passé à plusieurs centaines de mètres de là, voire 1 ou 2 kilomètres, et qui résonne sur les parois, et qui va se transformer en résonnant et devenir presque parfois le chuchotement d'une personne.
Ouh là là. Mais alors, donc, il y a peut-être des fantômes dans les grottes, on ne sait rien.
On ne sait pas.
Mais en tout cas, sans temps, sans horaire, donc hors du temps, il y a plein de questions pratiques qui se posent, surtout et d'autant plus quand on est à plusieurs. Vous le dites bien dans cet ouvrage, toujours un qui dormait ou qui n'était pas au repas. Enfin voilà, c'est assez compliqué à ce sujet. Nouvelle question pour vous, soulevée par l'autrice et youtubeuse de l'espace, Florence Porcel.
40 jours sous terre, du coup avec toujours les mêmes personnes, donc on ne prend pas rendez-vous, ce genre de choses. Alors est-ce que le temps a une importance vraiment quand on vit sous terre avec toujours les mêmes personnes?
Votre réponse, Christian.
Alors le temps en tant que tel, en tant que définition qu'on en a fait dans notre société, non, il n'a plus d'importance. Par contre, le moment du partage, le moment d'être avec l'autre ou de ne pas être avec l'autre prend une importance fondamentale. Ce moment où j'arrive, où on a donc trois espaces dans la grotte. L'espace où on dort, dans la galerie du Lion. Chacun dans sa tente. L'espace scientifique. Et puis à environ 650 mètres de là, l'espace de vie. On a voulu l'éloigner pour justement qu'on puisse y faire du bruit sans gêner les autres espaces. Quand on arrive là à cet espace de vie où il y a la cuisinière, où il y a de la nourriture, où il y a un peu de lumière parce qu'on a une boule lumineuse qu'on peut allumer ou éteindre, ça c'est un choix qu'on fait en tant que personne, eh bien il y a les autres. Et en fait, cette décision d'aller à l'espace de vie, de passer un temps qui n'est plus donc un moment minuté, mais un temps qui justement n'est plus dépendant de « Ah oui, je te donne une demi-heure de rendez-vous. On a rendez-vous pour déjeuner, mais bon, moi, je t'accorde une heure parce que dans une heure, je dois filer. » On n'a plus ça. Et du coup, on redonne à la relation humaine et à l'échange avec l'humain une importance fondamentale, puisqu'elle n'est plus paramétrée par le temps qu'on lui accorde, mais par l'intensité qu'on accorde à ce moment-là.
Très étonnant, hein. Finalement ça change, cette question du temps change énormément de choses. On va parler un peu des volontaires, hein, qui sont venus avec vous, donc en tout 8 hommes, 7 femmes. Hein. Vous leur donnez la parole, hein, dans cet ouvrage Deep Time, 40 jours sous terre. Donc je vous rappelle, nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, si vous nous demandez par mail sur notre page Facebook, vous leur donnez la parole parfois, alors que c'est une organisation énorme, donc il y en a qui sont rentrés et ressortis tout de suite pour s'occuper de l'organisation dehors et protéger l'entrée de la grotte. Vous étiez enfermés à l'intérieur. Ces profils, ils sont souvent jeunes, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes, ils ont tous été volontaires pour aller s'enfermer avec vous. Ils ont tous des capacités différentes et ils ont tous des manières différentes de gérer. Il y a l'infirmière, je crois, qui au début s'endort et Émilie, dort. Émilie, elle dort.
Notre petite marmotte personnelle.
Mais c'est ça. Ouais. Voilà, chacun a des repères différents. Comment ça se passe dans le collectif, justement ?
Ce sont des humains. Au sens large du terme. Non, mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres termes dans le sens c'est extraordinaire quand on s'intéresse à l'humain, à une femme ou à un homme, de voir que chaque personne a un parcours extraordinaire. Moi, on me dit souvent, mais tu as sélectionné que des gens fabuleux. Mm-hmm. Non, j'ai sélectionné des gens de qui tout d'un coup on s'intéresse. Et qu'on découvre que quand on s'intéresse à quelqu'un, bah, son parcours, sa vie, ses rencontres, voilà, c'est assez riche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est soudainement 15 dans un espace où il n'y a rien d'autre à faire que de parler, on a du travail à faire aussi, mais bien sûr, on a quand même beaucoup de temps pour parler. Ben, on se découvre et on trouve qu'on est tous extraordinaires, effectivement. Alors, en l'occurrence, ils ont tous entre 25 et 50 ans. Ça, c'est la norme qu'on a fixée pour pouvoir mener nos études. Ils sont, en l'occurrence, caucasiens parce qu'on voulait pouvoir déjà faire un premier paramétrage avant peut-être de refaire d'autres expériences avec d'autres populations. Ils viennent de tous les horizons. Hein. Certains sont docteurs, d'autres sont manutentionnaires, chauffeurs, d'autres sont biologistes. Voilà. Sans aucune péjoration sur chacun de ces métiers, hein. Ce sont des métiers différents. Simplement, est-ce qu'on a la même manière de générer le temps quand on est manutentionnaire que quand on est chercheur en biologie, par exemple. Voilà. On peut se poser cette question. Quand on est aisé financièrement ou quand malheureusement on est en difficulté financière. Voilà. C'est ça qu'on a voulu réunir. Ce que j'aurais adoré, évidemment, c'est d'aller dans la rue et de dire « Toi, tu viens avec moi, on va dans la grotte. » Pour avoir vraiment ce hasard d'une constitution. Alors évidemment, scientifiquement, techniquement et intellectuellement, on ne peut pas le faire, ce ne serait pas éthique. Donc on doit sélectionner. Mais on a essayé de sélectionner un groupe très hétérogène, très représentatif de la société d'aujourd'hui. Moi, j'imagine souvent ça comme un petit village, un petit hameau qui tout d'un coup est coupé du monde. Et y a des gens qui se connaissent bien. Il y a des gens qui viennent d'arriver, donc ils découvrent les autres, il y a un peu de tout, et puis ils doivent réorganiser une société. Si vous voulez faire un comparatif, ce serait un peu l'histoire de Lost, hein, cette série télévisée où tout d'un coup un avion se crache sur une île déserte, et puis pouf, il faut réorganiser une vie. Alors bon, dans Lost, il y a plein de choses surnaturelles qui arrivent. Nous, c'est très naturel ce qui se passe, hein, c'est ça qui est extraordinaire, mais c'est vraiment ça. Comment ce groupe se reconstitue ?
Et ce sont tous des volontaires. Ils avaient quoi comme motivation ? Parce qu'on se dit qu'il faut quand même avoir peut-être une sacrée vie intérieure pour tenir 40 jours sous terre. On va y venir, des tâches scientifiques, un certain nombre de choses à faire. Mais quand même, on est seul avec les autres et soi-même.
Oui, alors, il y a évidemment un biais de recherche. Hein, c'est que ce sont des volontaires. Mmh. Comme je le disais avant, on ne peut pas malheureusement forcer quelqu'un à faire ce genre d'expérience. Ça a été malheureusement...
Il vaut peut-être mieux pas, d'ailleurs.
Non, ce serait impossible. Ça a été fait, des expériences de 1000 grammes, des choses comme ça qui ont été terrifiantes et qui ne sont pas... Enfin, c'est impensable de reproduire aujourd'hui des expériences de ce type-là. Donc, ce sont des volontaires. Après, les conditions de vie sont tellement particulières qu'on oublie assez vite des fois qu'on était volontaire et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais là
Qu'est-ce que je fais dans cette galère, hein.
Et encore là, les conditions sont pas si désagréable. Alors 100% d'humidité, c'est un peu marquant, mais 10 degrés, voilà. C'est, on a quand même un endroit où dormir, on a assez à manger, on n'a pas de contraintes majeures, à part le travail qu'on doit faire, mais je dirais que...
Assez à manger, mais il faut quand même tout ça, il faut quand même le réguler un peu, il ne faut pas que les provisions diminuent. Enfin, il y a quand même... il pourrait y avoir des tensions, on se rend compte qu'il y en a... Enfin, est-ce que vous ne les racontez pas? Il n'y en a pas beaucoup.
Non, alors le livre est très honnête, il est simple, mais très honnête, sur le fait que j'ai raconté ce qui s'est passé. Et oui, il y a eu quelques petites tensions, il y a eu des moments de discussion, notamment effectivement sur la nourriture, parce que de toute façon, c'est ce qui tend le plus. Mais on a été très proactifs sur cette notion-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait le moindre petit début d'étincelle, tout de suite, on réunissait les personnes présentes, parce que certaines étaient toujours en train de dormir aussi.
Oui, c'est ça, il faut arriver à se réunir
voilà, tous ensemble. On réunit les personnes qui sont là, on en discute, on cherche une solution, et quand on l'a trouvée, on la transmet à tout le monde et on l'applique. Et parce qu'on a mis en place collectivement cette décision, bah, finalement, elle s'applique assez bien et assez facilement.
Autour de la question, pourquoi et comment passer 40 jours sous terre et hors du temps, donc je le rappelle, sans notion de date, de jour, de nuit, on continue de s'interroger sur nos limites humaine, spatio-temporelle, au son de l'afro-pop star nigériane Yemi Alade et ce morceau de circonstance, 9-10 Day, sur RFI.
You need to call your baby. They worry me, oh. Daddy boy, do leave me. Sorry, wagwa. Big waiting in boy, they tell me. Telling me on it, oh. Make a come for the me. Say he de calabar. Omo, he de maraba. He get it big cassava. He say one up and now. Motiba no, motiji no. For your mata, oh, are they sucker? Motiba no, motiji no. Now he me de telling me night and day.
Chanteuse, autrice et compositrice nigériane sur RFI, Night and Day. C'est pour vous, Christian Clot, qui venez de passer.
Très, très beau.
Merci. 40 jours et 40 nuits sous terre, hors du temps, dans une grotte et sans musique aussi.
Sans
vous n'aviez pas le droit.
Si, un peu de musique, mais pas enregistrée en tout cas.
Ah, et pourquoi pas de musique enregistrée?
Parce qu'on sait à peu près la durée des morceaux musicaux, donc ça aurait été un indicateur temporel.
D'accord. Donc il y avait quand même quelques musiciens dans le
groupe. Il y avait Marina qui avait son violon, il y avait Johan et Jérôme qui avaient leur guitare. Donc il y avait quand même de la musique. Ils en jouaient régulièrement, presque tous les cycles. Et donc on avait quand même de la musique. Évidemment, alors comme ce sont des bons musiciens, mais qui ont un répertoire, qu'est-ce qu'il y a, on entendait souvent les mêmes musiques. Mais c'était agréable quand même.
Évidemment. Et vous dites tous les cycles, puisque chacun comptait ses propres cycles de jour et de nuit.
Tout à fait. Un cycle, c'est le temps d'un sommeil et le temps d'une veille. Donc c'est comme si on avait un jour et une nuit, mais rapporté à l'échelle de notre propre rythme.
Et les cycles de chacun n'étaient pas les mêmes.
Pas du tout.
Autour de la question, pourquoi justement passer 40 jours et 40 nuits hors du temps, sous terre, dans une grotte? Je rappelle donc que vous êtes parti avec en tout 15 volontaires en tout, hommes et femmes, qui ont participé à cette exploration aux limites pour tester les capacités d'adaptation humaine en conditions extrêmes dans cette grotte de l'Ariège. On l'a dit, température constante, environ 10 degrés, 100% d'humidité. Il vous a fallu vous adapter et retrouver peut-être, je ne sais pas, de très vieux, de très ancestraux réflexes de nos ancêtres dans les grottes. C'est tout le sens de la question que vous pose la journaliste scientifique et autrice Aline Richard-Zivolava.
Est-ce que l'espèce humaine serait un peu cavernicole? Je veux dire, au-delà d'une performance, on peut passer X temps comme ça dans l'obscurité sous la terre. Est-ce qu'on serait capable finalement d'y rester un peu plus longtemps, voire des périodes entières de nos vies?
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian?
C'est une très belle question qui est dans la réponse est difficile, parce que je crois que le besoin fait l'acte, et que si un jour peut-être se passait quelque chose de dramatique, une explosion nucléaire qui nous obligeait à revenir peut-être dans les systèmes de grottes, ou peut-être comme on peut l'imaginer sur la Lune ou sur Mars, où il faudra se mettre dans des territoires protégés des rayons solaires, est-ce qu'on pourrait le faire dans une grotte? Moi, je pense que c'est techniquement possible. Nous, pendant 40 jours, pas grand monde a ressenti de besoin, parce qu'on était bien organisé à l'intérieur. Certes, le soleil manque, mais on avait un système de lumière qu'on pouvait allumer et éteindre. On était en groupe, on était heureux ensemble. Quand on nous a annoncé la sortie, clairement, personne n'avait envie de sortir.
Ça, c'est très étonnant, parce qu'en fait, on voit bien, il y a plusieurs temps hein, dans votre parcours. Enfin, au début, il faut s'installer. Ensuite, vous êtes complètement désynchronisé. Vous ne vous retrouvez plus. Les uns dorment pendant que les autres mangent, etc. Et puis ensuite, ça se resynchronise. Et finalement, personne n'a envie d'en sortir. Enfin,
on arrive à ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait. C'est une forme d'adaptation. C'est-à-dire, à savoir qu'on était suffisamment bien dans ce territoire qu'on aurait pu y rester. Alors après, est-ce qu'on aurait pu rester 10 mois, 2 ans, 5 ans? Évidemment, il y aurait eu des manques, mais en cas de besoin absolu, je pense que oui. Si par contre on sait que l'extérieur est là et qu'il est accessible et qu'il n'y a pas de raison de ne pas y aller, non, on n'aurait pas pu. Donc est-ce que l'espèce humaine a un côté cavernicole? Je ne pense pas initialement. Je pense que l'humain cherche à se protéger quand c'est un besoin. S'il y a trop de lumière, il va se cacher dans une grotte. S'il y a trop de rayonnement, s'il y a trop d'UV, il va se protéger. On est quand même une espèce fabuleusement adaptative.
Ah oui, c'est ce que vous dites. Hein. Vous qui êtes quand même un grand explorateur-chercheur, qui avez exploré, vécu, été quand même aux limites régulièrement, que ce soit extrême du froid, extrême du chaud, ou là, extrême sans aucun soleil, ni heure, ni temps, on est très adaptable en fait.
Quand il faut. On est capable de dépasser des choses. Il faut quand même. Alors attention, je vais surtout pas me comparer à ça, loin s'en faut. Mais quand on voit des personnes qui ont survécu aux camps de concentration, où rien n'était fait pour la vie, quand on voit des personnes qui parfois survivent dans des milieux extrêmement froids, extrêmement chauds, je me dis oui, on a des compétences parce qu'on a une chose qui est extrêmement puissante quand on la met en œuvre. C'est le rêve et c'est la projection vers le futur. C'est cette envie très forte. C'est ce que Guillaumet dit quand il s'est craché dans les Andes. Il a dû marcher seul avec des habits totalement inadaptés pour être dans l'hiver. Puis il arrive au bout et il dit « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Et ça a été très mal interprété par des gens qui disaient « Ah ben, il se croit plus fort que les animaux ». Ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit là, c'est que lui, il a la capacité d'imaginaire. Il pensait à sa femme, à son fils qu'il voulait retrouver. Et c'était tellement puissant que ça lui a permis de survivre dans quelque chose que, sur le papier, était impossible.
À ce sujet, je propose tout de suite une nouvelle question soulevée par l'écologue Jacques Tassin, qui était récemment notre invité.
Moi, j'aimerais savoir si, au fil du temps, quand on reste aussi longtemps sous terre, est-ce que le regard qu'on a sur le monde se modifie? Et notamment, est-ce qu'on le retrouve dans les rêves? Est-ce que les rêves changent entre le début et le terme de ce séjour?
Alors, est-ce qu'on rêve, Christian Clos? Vous racontez pas mal de récits de rêves.
Les rêves ont été omniprésents, étaient très puissants. Beaucoup de personnes ont rêvé, et des personnes qui ne rêvaient pas habituellement, je rectifie, qui ne se souvenaient pas de leurs rêves habituellement, se sont mis à se souvenir de leurs rêves. Et moi, ça m'est arrivé dans quelques milieux de la planète, en Amazonie, dans des endroits où il y a une sorte de sérénité, où il y a une sorte de lenteur de temps, où on est obligé de rester longtemps dans un système assez lent. Là, les rêves deviennent omniprésents et deviennent même une ressource extraordinairement forte pour pouvoir tenir le choc quelque part. Mm-hmm. Donc oui, il y a des rêves. Alors je ne vais pas, chacune et chacun a eu les siens. Et est-ce qu'on rêve de choses naturelles? Est-ce qu'on rêve de choses extra-naturelles, surnaturelles? Tout ça, bah c'est chacune
vous
et chacun.
Vous rêviez que vous étiez... Est-ce que ça s'est modifié au fil du temps? Est-ce que vous rêviez plus de la grotte ou dans la grotte au fur et à mesure ou pas?
Non, alors moi, à titre personnel, oui, hein, je ne rêvais pas du tout de la grotte. Moi, j'ai toujours eu des rêves qui sont partis toujours très loin, où je me balade. Peut-être que ça a créé mon envie d'être explorateur, d'ailleurs, hein, parce que je me balade toujours un peu partout. J'imagine plein de choses.
Dans vos rêves?
Dans mes rêves. D'autres, je sais, rêvaient d'actes dans la grotte. Ça, c'est arrivé, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rêvaient que de ça. Je crois qu'il n'y a pas une série de rêves absolue qu'une personne aurait fait tout le temps de manière récurrente.
Mais pour vous, cette imaginaire et ces rêves, ces nuits dont vous vous souveniez au réveil sont importantes et font partie de... C'est une ressource.
C'est une ressource extrêmement importante. Notre cerveau, il génère des images qui lui donnent la possibilité de tenir face à des conditions complexes. Et le fait d'accepter ça, d'accueillir ce moment-là et de ne pas rejeter ça ou de ne pas considérer que c'est pas important, mais de questionner la raison que le cerveau a de vous envoyer ces signaux et comment ils fonctionnent, c'est à mon sens extrêmement important, oui, tout à fait.
Alors vous étiez, quand vous ne dormiez pas, quand vous ne mangez pas, selon votre cycle à vous, à chacun, vous étiez évidemment occupé par des expériences scientifiques et puis aussi par un relevé de la grotte. Vous racontez, c'est très touchant aussi, je trouve ça, comme vous avez fait le relevé de toutes les traces, de tous ceux qui sont passés dans la grotte. Enfin,
oui, j'ai pas choisi Lombrive au hasard. Hein. J'ai choisi
donc
Lombrive
la grotte
parce que...
de Lombrive en Ariège.
Absolument, hein. La grotte de Lombrive en Ariège, qui est une grotte splendide. Et je suis intimement persuadé que l'adaptation passe entre autres par la capacité à aimer le territoire dans lequel on se trouve, ou si on ne l'aime pas, à projeter dessus des imaginaires et des émerveillements suffisamment forts pour que ça devienne un territoire intéressant.
Il faut être dans le beau, enfin il y a quelque chose de l'ordre
On a besoin de rêver, on a besoin de projection, on a besoin de croire. Et quelque part, c'est extrêmement important parce que... pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller demain? Pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer la vie? Pourquoi est-ce qu'on a envie de dormir une nuit de plus et de vivre une journée de plus s'il n'y a pas un espoir derrière, s'il n'y a pas une envie derrière? Et cette envie, elle passe aussi par le territoire. Je crois qu'on est fondamentalement, nous, humains, explorateurs, exploratrices. Le bébé se découvre et découvre son territoire parce qu'il part à l'exploration. Alors certes, d'un territoire qui est déjà connu, mais à son échelle, totalement inconnu. Et c'est parce qu'il fait cette démarche, ce bébé, qu'il va découvrir petit à petit, qu'il va paramétrer son monde. Je suis intimement persuadé qu'en tant qu'adulte, on a toujours ce besoin. Et que lorsqu'on se retrouve dans une nouvelle situation, on a ce besoin d'aller à son tour redécouvrir le territoire, redécouvrir l'endroit où on est. Et là, effectivement, on a pu... dans Lombrive, d'abord explorer Lombrive en tant que grotte. Alors explorer, attention, on n'était pas les premiers à y aller, hein, mais à notre échelle, explorer.
Bien sûr.
Et puis, sur les murs de Lombrive, dans le premier, il y a deux étages, deux niveaux. Le premier niveau, celui qui est accessible au public, il y a énormément d'inscriptions sur les murs. Certaines datent de 1200, 1400, 1500. Et c'est l'histoire d'une partie du monde qui s'inscrit là. C'est des personnes qui décrivent leur amour pour une personne, qui parlent de leur peur, de leur rêve. On a en 1788 des gens qui parlent « Que sera notre avenir ?» juste avant 1789. On a des couples, on a des familles. Et tous ces gens, un jour ou l'autre, moi je trouve ça assez émouvant, comme très anciennement les peintures rupestres, ces personnes qui ont mis leurs mains contre un mur et qui ont laissé la trace de leurs mains, comme Cuevas das Manos en Patagonie ou les grottes Chauvet ou autres. Et ben là, on a des personnes qui ont pris un bout de crayon, un bout de craie et qui ont écrit sur les murs. Des fois, c'est horrible parce que c'est dégradant, ça dégrade les territoires, les tags et autres. Mais d'autres fois, c'est tellement émouvant que ça nous raconte l'histoire de l'humanité. Et nous, quand on se baladait dans cette grotte, et principalement l'équipe qui a fait, parce que c'est un peu une équipe qui a fait cet inventaire de tous ces glyphes.
De tous ces glyphes, hein.
C'est ce qu'on appelle des glyphes, des marquages sur la grotte. Ce n'est pas des peintures rupestres, hein, j'insiste, ce sont des marquages sur la roche. Tous ont vraiment adoré faire ça et nous racontaient ensuite bah tiens là on a vu cette inscription, c'est écrit tout petit à la main en crayon de papier, mais ça raconte une histoire, ça raconte une vie, et c'est une transmission. On se transmet de génération en génération l'histoire d'une chose très simple: on est tous humains, on a tous envie d'aimer, on a tous envie d'avoir de la liberté, on a tous envie d'être heureux. Ça nous réunit dans l'ensemble de la planète, qu'on soit en Afghanistan, en Éthiopie, en France ou dans une grotte à Lombrive. On a envie de ça. Si on offre ça à l'humain, il est en paix. Si on lui enlève ça, il fait la guerre.
Il faut aller dans une grotte pendant 40 jours et 40 nuits pour s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce que c'est vrai qu'en vous lisant, au début, moi, je me disais, mais jamais je serais partie ne pas voir le soleil pendant 40 jours, c'est impossible. En vous lisant, on se dit que oui, il y a eu des choses dures, mais dont chacun a su tirer parti. Qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans, à votre avis, pour vous, Christian Clot, ou pour ceux que vous avez entraînés, emmenés de manière tout à fait volontaire dans cette expédition scientifique et humaine?
Mais c'est presque un peu provocateur, mais j'ai envie de dire pratiquement rien.
Mm-hmm.
C'est ça qui est assez fou. Cette
ouais,
expérience,
fou,
quand je l'ai paramétrée, quand je l'ai créée, quand je l'ai montée, j'ai évidemment relu avec l'équipe scientifique tout ce qui s'était fait jusque-là dans ces domaines-là et toutes les dépressions, les difficultés qui avaient suivi parfois malheureusement.
Parce qu'il faut remonter après.
On sait que Michel Siffre a eu des difficultés, on sait que Véronique Leguen s'est malheureusement donné la mort quelques mois après. On se dit, j'étais très très inquiet. Quand moi je prends la responsabilité d'enfermer des personnes dans une grotte, je me dis, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Et je crois vraiment que là, on a, alors ce n'est qu'une fois, il faut reproduire pour le prouver, on va le faire scientifiquement, mais j'ai envie de dire, on a quand même la démonstration de la force d'un groupe sur l'individu isolé.
Ah, c'est ça. Ouais,
le groupe, quand il a envie de collaborer, de coopérer, ce qui a vraiment été le cas pour ce groupe. Tous, quelles que soient nos appétences, notre égoïsme, notre envie d'être en groupe, tout le monde a fait un effort pour que ça puisse fonctionner. Et quand c'est comme ça et qu'on sait que si j'ai un coup de blues, une difficulté, je vais pouvoir aller vers quelqu'un pour parler. Quand je sais que je vais trouver des gens avec qui je vais pouvoir passer un moment, on va se serrer dans les bras peut-être, on va s'aimer, pas au sens... On nous demande souvent s'il y a eu des histoires d'amour dans la grotte. Mais non, il n'y a pas eu d'histoire de sexe dans la grotte, parce que ce n'était pas le sujet. Parce qu'on avait déjà juste envie d'être ensemble et de s'aimer en tant que personne et non pas en tant qu'objet sexuel ou quoi que ce soit. Et ça, c'est extraordinaire. Ce moment-là...
C'est la force du groupe, en fait. Et c'est ce qui se dégage de cet ouvrage, hein, Deep Time, 40 jours sous terre. On se dit, finalement, quand un groupe a envie d'être ensemble et qui collabore et qu'il a envie de tout faire pour que ça fonctionne, en fait, c'est ça. Ça marche, ça donne des choses éblouissantes.
Aujourd'hui, je fais une vraie distinction entre collaboration et coopération. C'est que des mots, mais la collaboration, c'est le moment où vous êtes ensemble, vous devez fonctionner ensemble. La coopération, c'est j'ai envie de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, j'accepte quelques modifications sur moi-même pour que l'autre soit bien et je sais que l'autre fera pareil. Si tout le monde est dans cette dynamique-là, et ça a été le cas dans la grotte, mais vraiment, je trouve ça... Moi, j'ai vécu 40 jours... Étonnant. J'étais épuisé en entrant dans la grotte. On avait monté cette mission en 4 mois, j'en pouvais plus, j'étais sur les rotules. Les premiers cycles ont été terrifiants parce que j'essayais de tout organiser, je ne savais plus où j'en étais parfois. Et tout d'un coup, je regardais ce groupe qui riait le soir, qui jouait de la musique.
Le soir, j'aime bien vous dire qui riait le soir.
Oui, mais voilà, c'est fou. Comme on a ces réflexes, il n'y en avait pas, mais c'est vrai que c'était mon soir à moi quand j'allais. Et puis c'était le début de la journée pour une autre personne. Mais c'est pas grave. Ça m'arrivait de prendre mon petit déjeuner avec une personne qui déjeunait et une autre qui dînait. Mais on était quand même assis ensemble à table et on mangeait ensemble et on se racontait nos vies. Et ce qui était fou, c'est qu'on était dans la même grotte à vivre la même chose. Et pourtant, on avait des vies différentes parce qu'on ne vivait pas au même rythme. Et donc, on avait toujours des choses à se raconter. Et finalement, on avait ce plaisir énorme à se raconter nos vies, les uns et les autres. Non seulement nos vies, la grande histoire de nos vies depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'est beaucoup parlé, mais aussi la vie dans la grotte, ce qu'on a fait. Et puis surtout, quand on partait en exploration, quand on descendait dans les rappels pour aller au deuxième niveau, qu'on arrivait sur les lacs, qu'on découvrait les stalactites, les stalagmites, les concrétions, et qu'on revenait et qu'on se disait oh, « j'ai vu cette concrétion, c'était tellement beau, il faut que tu ailles voir toi ». Et le lendemain après sa nuit, c'était l'autre qui partait. Et c'est ce cycle-là qui finalement s'est créé entre nous et qui a fait qu'au bout du compte, non, il n'y a pas eu de grandes difficultés.
Vous diriez peut-être, comme les Stones que je vous propose d'écouter tout de suite, que le temps était de votre côté. Time is on my side. Et Rolling Stones sur RFI. Say Time is on my side. Les Rolling Stones sur RFI. Je suis face à Christian Clot. Autour de la question, pourquoi passer 40 jours sous terre et hors du temps? Vous venez de passer, enfermé, c'est pas un joli mot, cloîtré. Vous venez d'aller passer 40 jours et 40 nuits à votre cycle dans une grotte de l'Ariège avec 15 volontaires. Hommes et femmes, 40 jours, on l'a dit, sans montre, ni calendrier, ni soleil, évidemment. Pour tester dans le cadre de l'Institut de l'adaptation humaine que vous avez fondé, nos limites, nos capacités à survivre dans des milieux les plus extrêmes. Et ça s'est bien passé, vous nous l'avez dit, en collectif. Ça donnerait presque envie, en tout cas, ça donne des idées au planétologue Sylvain Boulet, professeur à Paris-Saclay, notre complice de l'éphéméride Ciel d'Afrique. Il y a une question pour vous, Christian Clot.
Vous qui êtes un spécialiste de la vie dans des grottes terrestres, on parle du retour de Thomas Pesquet sur la Lune. Est-ce que vous auriez un petit conseil? Comment on pourrait vivre dans les tunnels de lave lunaire, puisque finalement, eh bien, l'exploration lunaire pourrait se faire dans ces tunnels de lave. Et en fait, il va falloir apprendre à vivre dans des tunnels sur la Lune. Donc ça, c'est peut-être ce qui nous attendent, eh bien, nos astronautes dans les prochaines années.
Alors, quel conseil vous pourriez donner à Thomas Pesquet et aux autres astronautes qui partiront peut-être vivre dans des tunnels de lave sur la Lune?
Oui, c'est vrai que c'est tout à fait possible, que ce soit sur la Lune, sur Mars et peut-être ailleurs encore. On devra se protéger des rayons solaires et finalement plutôt de construire des énormes bases. Pourquoi pas se servir des tunnels de lave finalement, qui sont là, qui sont présents et qui sont suffisamment grands. Et je pense que c'est certainement ce qu'on fera. Alors il y a deux choses quand même qui seront importantes. La première, c'est que ces tunnels de lave sont très beaux. Il ne faudra pas l'oublier, il faudra vivre avec et les regarder comme un territoire à soi.
Ne pas les abîmer, vous voulez dire,
abîmer,
et en même temps...
Ne pas mais aussi les admirer, les voir, les explorer.
Ça fait partie du conseil que vous
donnez. Allez voir ces lieux. La deuxième chose, c'est qu'évidemment...
Les habiter vraiment,
Bon, ensuite, évidemment, ils partiront en expédition sur la Lune, donc ils auront d'autres territoires à découvrir, mais de faire de cet espace, ce tunnel dans lequel ils vivraient, ce sera chez eux. Il ne faudra pas qu'ils cherchent à vouloir autre chose. Ce sera chez eux et c'est dans ce territoire-là qu'ils devront constituer leur vie et créer leur cocon. Tant qu'ils se diront, mais mince, moi j'avais pas envie d'être dans ce tunnel de lave, j'aurais eu envie d'avoir une belle chambre d'hôtel avec une belle vue sur la terre tous les jours, tous les soirs quand je me couche, ils vont souffrir. Il faut immédiatement s'approprier le territoire dans lequel on est. Si c'est dans un tunnel de lave, soit, ainsi soit-il, prenons-le comme tel, faisons-en un chez-soi et puis partant de là, allons explorer le territoire qui nous entoure.
Ça, c'est étonnant comme conseil d'ailleurs. Finalement, c'est aussi la beauté du lieu dans lequel on vit et se dire je suis à ma place. Parce qu'au fond, j'imagine que pendant ces 40 jours et 40 nuits dans la grotte, par moment, notre mental, il doit dire mais qu'est-ce que tu fais là? Et je serais mieux là et j'aurais voulu ceci ou cela. Ça, c'est vraiment le danger.
Oui, c'est le danger. Je crois que si j'ai appris une chose de toutes mes expéditions, que j'ai été enfermé dans une petite cage ou dans des territoires fabuleux, dans des déserts et autres, c'est toujours prendre le lieu où je suis et l'observer pour y trouver des choses qui m'intéressent, qui sont belles, qui sont suffisamment fortes pour me dire « Ok, bah, je peux m'accrocher à ça, je peux croire à ça, je peux penser à ça et construire autour. » Et quand on a ça, on peut être n'importe où, on peut être à Paris, on peut être dans un désert, on peut être en forêt amazonienne ou on peut être dans une grotte et considérer le territoire dans lequel on est comme suffisamment intéressant pour en faire quelque chose. À partir de là, tout est possible.
Christian Clot, j'avais une autre question pour vous, soulevée par un autre astrophysicien, Roland Lehoux, qui vous demandait si vous étiez prêt à passer 40 jours sur Mars, maintenant à la surface de Mars. J'imagine que votre réponse, elle découle de ce que vous venez de dire.
Alors, oui et non. Sur la Lune, je n'ai pas d'hésitation. Sur Mars, je n'aurais pas fait il y a quelques années. J'irai sur Mars, j'ai envie d'aller sur Mars à une seule condition, c'est que justement on y soit avec un groupe humain et que ce groupe humain ait la même envie et la même passion et que si on la met en commun, alors oui, ça vaudra la peine d'aller sur Mars. Si c'est aller sur Mars pour y croire qu'on va y recréer une civilisation et tout ce qui va autour, non, j'y crois peu ou pas, mais je suis explorateur foncièrement dans l'âme et je crois qu'il faut qu'on continue la découverte parce que personne ne sait d'où viendra la prochaine solution, la prochaine idée, la prochaine découverte. Avant que Magellan parte, on ne savait même pas que le Pacifique existait. Et pourtant, il était là. Moi, je cherche toujours à me poser la question, quel est le Pacifique? que nous n'avons pas encore vu, mais qui pourtant existe quelque part.
Alors justement, quelle est la prochaine exploration scientifique que vous préparez? Parce que vous êtes déjà évidemment sur le terrain d'une autre aventure, collective encore, si j'ai bien compris, oui. Et en lien avec les énormes questions qui se posent aujourd'hui sur notre planète.
Je crois qu'on ne peut pas occulter les questions climatiques et environnementales. Donc oui, on se pose des questions aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie possibles pour l'humain et le reste du vivant. Donc on va aller emmener des humains, de nouveau des novices, comme pour Deep Time, dans des conditions climatiques complexes, très chaudes, très froides, très humides, pour voir finalement quel est l'impact réel de ces températures sur le corps et le cerveau, et comment est-ce qu'on peut s'adapter potentiellement et transformer un peu nos manières de fonctionner pour résister à cette température sans forcément devoir allumer, désumer le clim et autres. Donc ça, c'est un gros projet qu'on va mener l'année prochaine qui s'appelle Mission 20, 4x30 Mission 20 ou Deep Climate Expedition.
Et vous allez vraiment soumettre donc, des volontaires, on l'a bien compris, à des conditions climatiques terribles pour voir comment on peut s'adapter ou qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ne pas utiliser justement toutes les ressources fossiles.
Voilà. Première question, quel est l'impact direct Est-ce que nos corps se transforment? Est-ce que nos cerveaux se transforment? Est-ce qu'on peut vivre à 100% d'humidité? Aujourd'hui, les scientifiques disent que non.
Vous l'avez fait dans les grottes, mais il faisait 10 degrés.
Alors, il faisait 10 degrés, je l'ai fait en Amazonie, mais ça change beaucoup. Donc, il faut aller voir ça, il faut questionner ça. Et ça, je crois que c'est vraiment très important parce qu'on doit savoir ce qu'on pourra faire dans les années à venir, quand le temps va se réchauffer. On parle quand même de 45 à 50 degrés dans le sud de la France. Qu'est-ce que ça voudra dire?
Et qu'est-ce que ça voudra dire dans la bande intertropicale où sont beaucoup de nos auditeurs?
Absolument. Qu'est-ce que ça voudra dire dans les pays aujourd'hui qui sont déjà en difficulté, dont on parle, qui vont encore augmenter en température? Donc, évidemment, on ne pourra pas vivre à n'importe quelle conditions, mais il faut en tout cas savoir ce qu'on peut proposer à l'humain pour mieux appréhender ces types de températures et de climat, pour éviter de devoir uniquement se reposer sur la technologie, que je ne rejette pas, mais qui ne peut pas être l'unique solution.
Et comment est-ce qu'on fera? Comment est-ce qu'on ferait? On va terminer, ce serait ma dernière question. Justement, en cas d'obligation terrible de se retrouver sous terre ou de se retrouver dans ces conditions-là, sans l'avoir préparé comme vous le faites, sans être volontaire pour y aller, quel pourrait être, je ne sais pas, le conseil, le message que vous pourriez nous donner? Moi, j'ai bien retenu celui du collectif, j'ai bien retenu celui de la beauté, du rêve, d'imaginer et d'être... Et de se dire, je suis bien là où je suis et je vais faire avec.
Oui, il y a tout ça. Et puis, il y a tout simplement aussi, il faut changer le système éducatif. Il faut qu'on se prépare à des changements. Non pas se dire, tout va s'effondrer et puis il va falloir... Non, mais simplement être prêt à transformer des systèmes, à accepter le changement, à accepter les évolutions. Et ça, aujourd'hui, le système éducatif ne le fait pas encore. Donc, il faut aujourd'hui, c'est maintenant qu'on doit préparer ces futures années, que ce soit au changement de nos attitudes pour réduire nos impacts, ça c'est une évidence, mais aussi parce que de toute façon, les choses vont changer, on le sait, tout le monde le sait et personne ne s'y prépare.
Alors qu'on peut s'y préparer, vous en êtes l'exemple, c'est ça, à l'exploration, c'est se préparer au changement qui de toute façon est la condition de la vie.
J'ai vu des humains, des femmes, des hommes vivre dans des conditions hallucinantes et pouvoir le faire. Alors je n'espère pas qu'on vivra dans ces conditions aussi terribles que ça, mais je sais que quand on a l'envie, le collectif et une raison d'être, alors oui, on peut vivre dans des conditions vraiment différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Il y a déjà des humains qui vivent dans des conditions beaucoup plus chaudes, beaucoup plus humides, beaucoup plus complexes, et ils ne le font pas si mal. Donc ça veut dire qu'on a des leçons à prendre. Peut-être qu'il faut qu'on regarde différemment l'Afrique aujourd'hui, plutôt que d'essayer de leur donner des leçons en permanence. On a peut-être des leçons à prendre de ces pays qui aujourd'hui sont déjà confrontés à ce que nous vivrons demain.
À bon entendeur, je rappelle le titre du livre de Christian Clot, Deep Time, 40 jours sous terre, paru aux éditions Flammarion, une vraie aventure scientifique et humaine, une exploration en profondeur de nos grottes et de nos limites intérieures et extérieures à consommer sans modération. Autour de la question, en rediffusion tout cet été, demain, autour de la question, qui sont vraiment les corbeaux? Avec l'historien Michel Pastoureau et l'éthologue Agatha Liévin-Bazin, pour découvrir entre science et fiction, mythe et réalité, la fantastique intelligence des corvidés bien loin de leur mauvaise réputation. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Pour vous servir, merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.